Alors, je profite de la présence des gens qui sont presque prêts à démarrer pour vous demander de prendre connaissance de l'heure et demie qui nous reste. C'est très court. Robert Girard doit absolument partir à 17h et je pense que vous avez tous envie de finir à 17h. Moi aussi, voilà. Donc, le temps nous a un peu compté. J'ai fait en sorte, là, qu'il y ait à peu près 1h25. J'ai supprimé un petit temps qui m'était réservé parce que j'ai beaucoup parlé tout à l'heure et les résonances avec les retours d'atelier, je pourrais les faire dans les échanges du temps 4. Et donc, pour éviter qu'on ait trop de retours de groupe, ça sous-entend, parce que vous semblez être à peu près une quarantaine, de faire des groupes de 10. C'est beaucoup, mais en même temps, comme vous êtes rodés aux échanges collectifs et aux dispositifs de formation, je pense qu'il ne devrait pas y avoir trop de soucis pour arriver à faire ça. Robert, qui devait avoir un quart d'heure, n'aura que 10 minutes. Il a déjà un cadre qui est un peu prêt. Il va le laisser encore évoluer, mais la structure est là. Et donc, la constitution des groupes de 10, il faudra le faire assez vite. On part du principe qu'on n'est pas dans un dispositif de recherche-développement, mais c'est histoire de jouer le jeu du croisement des points de vue, des éventuelles controverses, des éventuelles... L'intérêt, c'est évidemment de voir si les quatre groupes vont faire des restitutions proches ou éloignées en fonction de ce qu'ils voient ou ce qu'ils ont choisi de partager sur la vidéo. Alors, sur la vidéo, donc je vous rappelle que je remets ça pour vous resituer. L'artiste est une photographe, elle est en deuxième année de résidence à ce moment-là. On est au mois de janvier, il fait moins 2 degrés. Le chercheur a filmé pour la première fois avec des gants. Les enfants ont froid, mais ça se voit pas. Enfin voilà, le moins 2 degrés ne se voit pas. Et donc, la consigne, c'est on sort et on photographie des immeubles. Quatre enfants élèves de moyenne section, enseignante, artiste. Alors, l'organisation de notre petite 50-55 minutes, évidemment, le premier temps individuel avec de la prise de notes pendant le visionnage, et puis, juste après, quand la vidéo est terminée, peut-être 2-3 minutes pour que vous ayez un petit complément de notes personnelles. Et puis, le temps collectif, alors je sais pas si Marie-Odile est d'accord.
Je suis là.
Ah, pardon, excuse-moi. Mais il m'a été suggéré de manière très pertinente de laisser les ateliers dans cette salle. Est-ce que ça, pour éviter des migrations qui prendraient du temps. Et puis je pense que c'est, on va arriver à vivre à 4 x 10, à peu près. Donc évidemment, comme dans toute mise en groupe, un rapporteur est désigné assez vite et le plus vite possible. Et puis un échange sur les notes individuelles avant de se mettre d'accord sur deux thèmes ou deux situations. Ça peut être des moments de la vidéo. Alors je me dis, deux, c'est déjà limitatif. Si vous n'avez pas énormément de temps et que vous restez sur un seul, choisissez un thème ou une situation. Si vous êtes 10 et qu'il faut le partager dans un temps un peu restreint, c'est un peu léger. Alors évidemment, ça fait sens pour le groupe, mais le pourquoi du sens est évidemment fondamental. Et puis, une tentative d'analyse ou d'embryon d'analyse commune sur l'un des deux thèmes ou situations, c'est-à-dire voilà ce qu'on sur cette situation-là ou sur cette thématique à partir de ce qu'on voit de cette vidéo, voilà ce qu'on a envie de dire de ce qui se passe, évidemment dans un rapport à éducation artistique, éducation prioritaire, tout ce que vous voulez. On est là dans les points de vue croisés, donc moi je ne donne pas d'autres indications que celle-ci. Il n'y a pas d'orientation sur mes thèmes du sensible, c'est pas nécessairement ça. Ça peut l'être si ça vous intéresse, mais c'est évidemment au groupe de voir et puis exposer des rapporteurs. Donc dans le deuxième temps où on aura 5 minutes par groupe. Alors, en général, si vous avez l'habitude, les synthèses sont assez des fois très très vite faites, donc essayez d'aller à l'essentiel pour la synthèse. Est-ce que ça va? Ça mériterait beaucoup plus, hein, on est bien d'accord. Mais on joue un jeu quelque part. On est un peu dans un espace de formation et dans une situation quasi fictive, mais en même temps en rencontrant des choses réelles. Donc choses réelles, 6 minutes 37 de vidéo. Alors peut-être là il va falloir éteindre. on devrait entendre sans problème tous les acteurs.
Luna, sur ton écran, à un moment, j'ai vu passer un immeuble.
J'en ai vu un d'immeuble. Un petit était en train de tourner. Oui. Elle est bien d'ailleurs, sa photo. Ouais.
Photographier des immeubles. Au départ, c'était ça, oui. Il y a l'artiste photographe et l'enseignante. La consigne, c'était pour cette exploration-là de travailler sur l'immeuble, sachant que le projet de l'année tournait autour de l'habitat. Et du coup, les enseignantes récupéraient le travail fait avec l'artiste sur l'environnement en général pour travailler sur la maison, etc. Mais ça passait par la découverte du quartier où il y avait essentiellement des immeubles. Et là, l'objectif, enfin, la consigne, était bien de photographier des immeubles. On forme les groupes de 10, peut-être. Puis prenez le temps d'écouter chacune des notes prises par chacun.
Alors, dans notre groupe, nous sommes
s'il vous plaît.
Attachés à deux thèmes. Tout d'abord, l'idée qu'il y avait deux postures d'adultes et le problème de la place de l'artistique. Au niveau des deux postures d'adultes, je fais les deux parties en même temps sur l'analyse. Alors, les deux postures d'adultes, on a constaté qu'il y avait un adulte qui accompagnait les élèves et la sortie. C'est l'adulte qui donne le mot détail, par exemple, pour aider l'élève à nommer ce qu'il voit. Les élèves ont l'air d'être assez libres, un petit peu en balade. Tandis que l'autre adulte est beaucoup plus directif. Il porte un jugement de valeur sur le résultat. C'est un adulte qui a du mal à se positionner par rapport au regard de l'enfant, qui utilise un langage assez technique, est-ce qu'il faut utiliser un format portrait, un format paysage, et impose à l'enfant de tourner l'appareil, de ne pas bouger. Clairement, cet adulte-là a une conception de la photo. Peut-être est-ce simplement la nécessité de maîtriser une technique avant de passer à la réalisation. On voit clairement qu'il y a un travail aussi sur le cadrage, d'abord un plan large, puis un plan rapproché. On s'est interrogé sur est-ce que c'était adapté au maternel, mais ça on y reviendra dans le deuxième point. On s'est vraiment posé la question de savoir qui était qui, parce qu'on n'a pas tranché dans le groupe. Les avis sont vraiment partagés. Parce que par ailleurs, cette personne qui guide énormément, c'est aussi la personne qui interroge sur le sens de l'image. Qu'est-ce que dit cette image? Que dirait l'immeuble? Et on se demande aussi quelle était vraiment la consigne, parce qu'il nous semble que photographier un immeuble, c'est un petit peu réducteur et que ça ne rend pas compte, par exemple, des photos des galets du début. On aurait aimé avoir... la consigne plus clairement, peut-être pour trancher, ça nous aurait peut-être aidé à trancher. De fait, par rapport à cela, par rapport à ces deux postures, quelle que soit d'ailleurs la personne qui adopte l'une et l'autre posture, on s'est posé la question de la co-construction du projet. Quelle était la place de chacun, de l'institutrice et de l'artiste dans ce projet? Avait-il les mêmes objectifs dans cette séance? Et voilà pour le premier point. Par rapport à cela, on s'est posé la question de la place de l'artistique. Quelle est la plus-value pour des enfants de maternelle? La photographie du réel est difficile. On a envisagé que c'était seulement l'étape d'une démarche, que l'artistique en lui-même viendrait après. On a l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'appropriation de la photo par l'élève qui la prend. Et on se demandait quel sens un enfant de cet âge peut donner à la consigne qu'on lui a donnée. Très globalement, ce qui nous a frappé quand même, c'est un manque de liberté. En tout cas pour les élèves qui étaient très contraints. Et on s'est demandé ce qu'ils allaient faire de ces photos.
Merci. Alors comme d'habitude, chaque groupe fait comme si le groupe précédent n'avait pas parlé et parle avec ses propres mots.
Alors nous, on s'est posé exactement la même question que vous. On a parlé de point de vue en fait, point de vue de chacun, point de vue des deux adultes, positionnement, place de l'adulte dans le projet, place de l'adulte avec les enfants. Est-ce que le point de vue du cinéaste aussi, enfin en tout cas du choix de ce qu'il nous a montré, je pense qu'il y a aussi un point de vue. Par exemple, on voit très peu ce qui se passe tout au fond là-bas. On était très frustrés de ne pas savoir ce qui s'y passait.
Le filmeur, s'il vous plaît. Pas le cinéaste, le filmeur.
Le filmeur, d'accord. Bon alors, le filmeur. Donc il a forcément lui aussi un point de vue en nous ayant montré ce... Et puis le point de vue, après, effectivement, dans le cadre des arts visuels, plus avec l'aspect technique qui est très dirigé, avec donc cet enfant-là qui est materné. On a trouvé que même elle était très maternante, la personne qui s'occupait de cet enfant. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre ? Voilà, les aspects techniques prennent le pas sur l'univers de l'enfant. Très peu de phases d'expérimentation, très peu de liberté, comme vous l'avez dit tout à l'heure. On laisse pas la place au regard. Excusez-moi, je relis des notes que je n'ai pas prises moi. Donc voilà, les interactions et entre chacun des acteurs. Alors entre l'artiste et l'enseignant. Donc même si nous on a une notre petite idée, on était plutôt d'accord sur qui était qui. Mais bon, il n'y a pas d'interaction du tout. Est-ce qu'elles ont parlé en amont est-ce qu'elles sont d'accord sur ce qui va se passer? Et pour aller plus loin, donc on a parlé effectivement de ce qu'avait dit tout à l'heure l'artiste du cirque sur les représentations que pouvait avoir chacun sur par exemple le mot répétition. Ben là c'est la même chose. Quelle représentation on a si on a simplement on s'est simplement dit on va filmer les immeubles? Quelle est la représentation de l'enseignante? Quelle est la représentation de l'artiste? Est-ce qu'ils ont échangé par rapport à ça? Donc là on se pose cette question là. Oui, la part de l'enfant, vas-y.
Quelque chose qui nous a frappé, c'est l'enfant qui dit « on dirait que l'immeuble, il va parler ». Et l'adulte ne le pose pas la question, ne lui demande pas pourquoi il dit ça. Et la réponse est « oui, mais alors qu'est-ce qu'il va dire l'immeuble ? Il sera pas content, il n'a pas son chapeau sur la tête ». Donc il fallait absolument qu'on voit l'immeuble et le toit. C'est-à-dire que là, il y a une part de l'imaginaire de l'enfant est totalement oblitéré, alors qu'il aurait pu peut-être être un levier puissant. Mais c'est tout ce qu'on constate. C'est pas un jugement de valeur. C'est dans cet échange-là qui est aussitôt renvoyé à la norme de au-delà de la consigne, si la consigne c'était juste prendre un immeuble en photo. Et tout d'un coup, il y a une insistance sur le toit de l'immeuble, dans une situation technique très difficile, puisqu'ils sont au pied de l'immeuble et qu'il faudrait se mettre dans des postures, s'allonger peut-être pour tout voir. Voilà, essayer corporellement des choses pour que techniquement, on l'ait dans le carré.
Cela dit, ça pose aussi le problème de la contrainte, parce qu'on voit finalement un petit moment d'effectuation, hein, donc du travail. On ne sait pas quelles seront les productions, ça a été relevé dans le groupe, on aurait aimé voir les photographies qui vont sortir, et on ne sait pas non plus quels sont les objectifs, notamment la question des contraintes. Par exemple, si la contrainte, c'est de mettre les enfants dans cette espèce de couloir entre le mur et l'immeuble, et avec la contrainte, tout doit rentrer dedans, plastiquement, ça m'intéresse. C'est-à-dire qu'on va poser une contrainte qui va pousser les élèves à trouver une solution devant un petit problème qui est de faire rentrer un immeuble entier alors qu'on manque de recul. C'est pour ça que c'est assez compliqué. On a eu du mal à synthétiser un petit peu parce que on ne sait pas si c'est, par exemple, l'exigence de faire rentrer le toit, si ça fait partie de la contrainte qui va être justement qui va amener les enfants à dynamiquement devoir trouver des solutions. Et c'est un petit peu ce qui nous a mis en difficulté, d'avoir un manque de recul sur la totalité finalement de la demande, objectif, en contrainte, effectuation, résultat.
D'accord, merci.
Bon, moi j'ai pris des notes, mais vous me corrigerez dans ce que j'ai noté. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que il y a une pratique en maternelle qui est sans doute de guider. Et puis l'adulte, il parle en général à un élève et pas à tous les élèves. Donc nous, on était un peu interrogés par la gestion du singulier et du collectif, c'est-à-dire l'attention donnée tout d'un coup à à un élève pendant que l'autre était en train lui-même d'expérimenter et faire plein de trucs, mais complètement seul. On le laissait tranquille parce qu'on se rendait compte que l'appareil photo n'était pas en danger, mais j'entends, c'était un peu particulier. Et puis, nous, l'histoire du cliché, ça nous posait aussi question parce qu'on se disait, mais finalement, ces photos, cette situation problème, on laisse pas aux élèves le temps d'expérimenter, enfin, de cette première fois de prendre des photos, de faire tenir quelque chose dans un cadre qui est le dos de l'appareil. Et en fait, de l'exploitation de ces clichés, c'est-à-dire finalement, le hasard peut faire qu'on ait pris certaines premières photos, mais elles peuvent apporter plein de travail sur où j'étais, comment je me tenais, qu'est-ce que je voulais prendre, etc. Et il y avait une histoire de comme deuxième point, c'était la guidance et l'exploration, c'est-à-dire que ce point, enfin cette séquence, elle nous posait plein de questions là-dessus. Voilà, dilemme entre laisser chercher l'élève et le guider, par souci sans doute de vouloir le rassurer ou maîtriser, mais on se rend compte que voilà, la didactisation de la situation, finalement là, elle posait un peu problème.
Merci.
Sans savoir l'avant et l'après, parce que vous dites que c'est en janvier, vous dites que les projets sont bien écrits tout septembre, que les choses commencent en octobre, donc on se dit il y a plein eu d'autres choses avant, alors qu'on a l'impression en voyant que les enfants, c'est un peu la première fois qu'ils ont les appareils dans la main, ils sont vraiment dans les premières réactions avec l'espace et ce qui se passe.
Alors comme je donnerai deux, trois éléments là-dessus brièvement après le retour des groupes, pour que ça soit clair. J'avais dit tout à l'heure que c'était en deuxième année de résidence, donc il y a des élèves qu'on voit là qui avaient travaillé déjà l'année précédente avec la photographe. Mais sur les consignes, j'expliquerai en deux mots un truc très important qui pourrait peut-être vous éclairer. Du coup.
Alors, je ne vais pas répéter toutes les questions qu'on s'est posées également, mais on a identifié deux thématiques qui seraient plus autour de la consigne, le guidage en maternelle et des démarches pédagogiques qui sont utilisées et que l'on voit dans cette séquence vidéo. Et la deuxième thématique qui serait autour d'une tension entre la démarche artistique avec certainement une éducation au regard, quel focus, les points de vue, tout ça, et la maîtrise technique. Voilà, c'est les deux thématiques qu'on a identifiées à travers cette séquence vidéo, et notamment avec cette opposition qui est propre à la démarche artistique, dans laquelle on ne sait pas vraiment où on va, et vraiment là où on s'est beaucoup questionné, c'était sur cette espèce d'injonction du toit et de ce que proposait l'enfant avec son utilisation et sa prise de vue. Il avait pris la fenêtre du premier étage et on ne voyait pas le toit, et on a repéré cette phrase de l'enfant qui disait « l'immeuble s'il parlait ». Enfin, on aurait envie de voir, on ne sait pas où voulait aller l'adulte en tout cas. Bon, évidemment, la question de la posture, photographe ou enseignant, on se l'est posée. Mais je crois que... Enfin, voilà.
Très bien.
Aussi, si la consigne, si le fait que la consigne était, n'était pas très précise, enfin, voilà, est-ce que c'était voulu ou pas voulu? Enfin, voilà, on s'est posé la question.
Le dernier groupe. Alors, il faut que je réponde sur la consigne, hein, et sur ça. Et je ferai...
Alors, donc nous, on plusieurs points. La question de l'identification des adultes, on l'a assez rapidement balayée parce qu'on était à peu près tous d'accord. On avait tous repéré des indices sur qui pouvaient qualifier l'enseignant et l'artiste, différenciés. On s'est posé la question de la difficulté de comprendre la consigne. Désolée. Pardon, la difficulté à comprendre la consigne et les objectifs de la sortie. Pourquoi ces photos, et notamment à partir de pourquoi pas les cailloux. On s'est demandé pourquoi ce passage des cailloux avait été si vite écarté et en tout cas pas expliqué aux enfants. Est-ce que c'était l'objet d'une séance prochaine? Est-ce que c'était parce qu'on considérait que ça faisait pas partie de l'habitat, de la session? En tout cas, il y a eu cette frustration pour les enfants qui a pas été verbalisée. Ensuite, on s'est demandé si c'était un atelier pour peut-être travailler à la technique. C'est ce que ça nous évoquait. en tout cas ce qu'on en voyait, et que si c'était le cas, c'était possible et qu'il en fallait aussi, puisque là, on était sur une pratique artistique avec de la, avec un outil qui demandait aussi de, d'être maîtrisé, et que le zoom, le, la profondeur, etc., c'était des choses importantes qu'il fallait aussi évoquer. Sur la question du toit, alors on s'est posé deux questions. La question du toit de l'immeuble, on s'est rendu compte qu'à aucun moment l'adulte qu'on a supposé être l'enseignante avait interrogé la représentation du toit par l'enfant, parce que peut-être que l'enfant, elle pensait pas que c'était un toit parce que ça avait pas une tête de toit comme elle a l'habitude de les voir, que c'était pas pointu et que peut-être pour elle l'immeuble il avait pas de toit. Et en tout cas, ça a pas été questionné par l'enseignante. Enfin, dans nos souvenirs, et aussi que peut-être que l'artiste avait dit on photographie les immeubles de toit au sol, et que l'enseignante avait traduit ça par il me faut un toit, il faut des photos de toit, il faut des photos du bas, enfin que du coup l'enseignante avait restreint sa consigne à il faut absolument un toit. On s'est posé la question de l'acharnement sur cette petite fille là par la maîtresse qui est quand même non hyper contrainte. Elle est hyper contrainte physiquement aussi, ça nous a un peu marqué, le fait qu'elle était très 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 tenue et qu'elle avait assez peu d'espace de parole. Et on s'est demandé si peut-être c'était parce que la maîtresse la connaissait bien et qu'elle avait décidé de s'intéresser plus précisément à cet enfant. Et du coup, ça interrogeait les croyances qu'on peut porter, on peut poser sur un enfant et qui restreignent aussi, enfin qui posent des contraintes... Au développement, enfin en tout cas on n'imagine pas le champ des possibles de l'enfant si on s'imagine déjà que cet enfant là il va avoir des difficultés ou qu'il n'a pas compris la consigne. Et la petite fille qui se défend de mais non j'ai pas tremblé, j'ai pas bougé, et aussi ce petit moment autour de si l'immeuble y parlait, on s'est demandé si c'était vraiment une parenthèse poétique ou si c'était un moyen pour la petite fille de changer de sujet et de se débarrasser aussi de la coupe de la maîtresse.
Très bien, il y a du vrai là.
Et enfin... Et du coup, bah pour finir, on s'est dit qu'en fait, pour cette petite fille précisément, parce que c'est elle qu'on voit surtout, il n'y avait pas vraiment d'expérience du sensible, contrairement au petit garçon qui est laissé un peu seul avec son appareil et qui lui a l'air de plutôt bien s'amuser et de ressentir des choses en tout cas.
De faire des essais aussi, en autonomie. Alors, juste, il faut que je... Quelques précisions. La consigne consistait effectivement à... photographier des immeubles, mais en même temps, c'est l'artiste qui pilote l'atelier et sur le principe de l'exploration de l'environnement. Ce qui fait que l'interprétation de l'idée de consigne même était plurielle, puisque maintenir strictement une consigne alors qu'on laisse explorer. L'artiste, en ayant vu ce film-là, disait « Moi, en fait, en tant qu'artiste, je travaille comme les enfants font. » C'est-à-dire, je tourne, je prends un peu tout en photo. Et puis, s'il y a un immeuble, tant mieux, parce que c'est ce qu'on m'a demandé au début, mais c'était pas grave. Et le fait de faire un binôme artiste-enseignant, l'enseignant est dans sa culture de métier avec la consigne et le respect de la consigne et l'apprentissage qui passe par là. Et du coup, ce que vous avez appelé l'acharnement, qui est en fait une forme de souci pour elle de tenir une ligne par rapport à cet enfant que effectivement elle connaît, qui est une enfant en famille d'accueil, qui a un certain nombre de problèmes, qui marche à l'affectif, dit-elle, et que en fait elle était affolée de voir que cet enfant qui avait déjà plus d'un an de pratique, enfin de fréquentation de l'artiste, n'arrivait toujours pas à maîtriser la fonction lecture de l'appareil, parce qu'on peut dire maîtrise technique au détriment du regard de l'enfant, mais l'enfant qui n'arrive pas à maîtriser la lecture de ce qu'il a photographié, il faut bien passer à un moment donné par l'apprentissage d'une maîtrise technique. Donc elle a le souci de ça. Et en fait, tout ce que vous dites sur l'acharnement, le fait qu'elle néglige totalement la parenthèse poétique que l'enfant offre, qui en fait n'en est pas une, moi je suis d'accord avec votre interprétation sur le fait que elle le dit juste après que l'enseignante parle de consigne. C'était quoi la consigne? Est-ce si l'immeuble parlait? Et en fait, après... Ce que vous avez dit est un peu, quand on revoit le film en détail, et l'artiste qui justement est plutôt dans une ouverture et qui serait pas trop à imposer des consignes comme ça, a reconnu l'écoute de l'enseignante à ce moment-là, parce qu'il y a effectivement des moments, et c'est là que la vidéo est absolument géniale, parce que ce qui passe vite et ce qui passe, qu'on peut revoir et qu'en fait on voit qu'il y a un temps où il se passe quelque chose, avant que l'enseignante dise « Oh, il dirait Montois, il a pas de tête », il se passe un temps où elle le relance deux ou trois fois, ou la relance deux ou trois fois pour la laisser exprimer quelque chose sur « Et s'il me parlait, qu'est-ce qu'il dirait ?» Donc elle, ce temps d'écoute, elle le donne finalement. Et quand vous parlez d'orienter, de serrer les corps et tout ça, tout a été vu sur de l'accompagnement où justement l'adulte se mettait dans des postures corporelles singulières, y compris pour l'enseignant, à la fois parce qu'il y a une nécessité de se trouver dans le prolongement du cadre pour voir ce que l'enfant voit, ça oblige à être corps à corps, et en même temps de guider le geste. Ça peut être fait effectivement de manière un peu rigide pour qu'on cadre bien, mais en même temps, tous les acteurs parlent d'un accompagnement plutôt, de proximité, un vrai souci que l'autre arrive à maintenir quelque chose de la tenue de l'appareil et de son projet de cadrage. Donc vous voyez que les manières de regarder, notamment sur ce qui est rigide et ce qui est souple, parce qu'on part de là en général, Là, le croisement des regards a fait que l'artiste reconnaissait malgré tout quelque chose chez l'enseignant, et l'enseignante faisait une énorme autocritique de ce qu'elle a fait, sauf sur Jean-Paul, il faut que je t'explique quand même cette fille, parce que t'as beau dire que tu en fais trop, que tu parles beaucoup, etc., parce que moi je lui disais ça, elle me dit je suis d'accord, mais il faut que je te parle de cet enfant. Et en fait, ce qu'elle voit à la fin sur le sourire d'approbation, et ce qu'on ne voit pas après qui est le retour de l'expérience avec l'artiste qui demande à chaque enfant « qu'est-ce que tu as photographié ?» Ils prennent un petit temps de verbalisation comme ça. La petite en question a dit, et donc l'artiste s'est empressé de le dire à l'enseignante après, ce que j'ai fait moi, c'est que j'étais sur les genoux de la maîtresse et qu'on a photographié ensemble l'immeuble. Et avec un vrai plaisir, dixit l'artiste, qui a évidemment satisfait l'enseignante et qui a confirmé l'enseignante dans le fait qu'elle a eu raison d'insister avec cet enfant, de lui faire apprendre des choses. Alors maintenant, évidemment que pris sur le vif comme ça, et c'est le jeu que je propose est finalement assez vicieux, parce que vous n'avez pas l'avant, pas après, vous n'êtes pas ces personnes, on ne connaît pas les enfants, on ne connaît rien. Et donc leur point de vue permet de peut-être relativiser le jugement qu'on porterait, parce que même si on dit qu'il n'y a pas de jugement de valeur, il y a malgré tout une conception de l'éducation derrière qui fait qu'on critique tel ou tel type d'attitude. Je veux pas trop développer parce que il y aurait énormément à dire sur les enjeux et les controverses. Je vous renvoie au rapport parce que sur la scène de photographie, il n'y a pas l'exemple de cet enfant-là, mais celle d'un autre qui est développé tout à la fin du rapport, où il y a plusieurs moments où dans l'entretien collectif, l'équipe enseignante se met d'accord. Après, il y a du dissensus au sein du groupe. Elles se remettent d'accord en réévaluant la position de l'histoire de est-ce qu'il photographie ou pas, est-ce que le fait qu'il parle pas, c'est un problème ou pas par rapport à l'équilibre verbal-non-verbal et le fait qu'on est en école maternelle et que c'est en moyenne section et que il faut bien qu'on évalue ce gamin pour savoir si on prend une AVS l'année prochaine ou pas, et que vous avez beau dire qu'il est en plein dans la présence au monde et tout ça, il y a un moment donné où il va falloir qu'on fasse quelque chose, nous, pour cet enfant. Et ça, c'est un vrai... J'ai trouvé qu'il y avait une vraie tension féconde là-dedans. Et qui fait que les gens s'écoutent beaucoup au bout du compte. Et sur l'organisation, et je termine, parce que je suis déjà très bavard aujourd'hui, mais c'est passionnant. Donc, le fait que... est-ce que les adultes se sont coordonnés avant, se sont organisés avant, ils travaillaient avant depuis donc un peu plus d'un an. Il y avait une coordination, une espèce d'entente assez implicite dans ce groupe. Et le fait que là, ça s'éparpille et qu'elles ne sont pas ensemble est totalement voulu, à mon avis. Il n'y a pas de préorganisation. C'est l'artiste qui dirige l'atelier. Et ça, tout le monde le dit dans les écoles. Quand il y a l'atelier de l'artiste, c'est lui qui dirige. Donc, l'enseignant ou l'ATSEM qui sont derrière, parce que j'ai d'autres scènes avec d'autres enseignantes et d'autres ATSEM sur le même type d'atelier, où l'enseignante agit pas du tout pareil, où l'ATSEM agit pas du tout pareil. Et où finalement, c'est comment chacun suit l'artiste dans ce qu'il fait. Et la position du deuxième adulte, là, qui est premier théoriquement dans l'école, est une vraie question sur l'organisation des ateliers, comment on les conduit. Et là, à mon avis, il n'y a pas d'énorme anticipation ou de construction en amont des ateliers sur comment travailler en binôme, en trinôme. Je vais faire ça la semaine prochaine dans une école où ils m'ont demandé de faire ça. On va filmer un atelier pour voir comment les différents adultes travaillent ensemble dans l'atelier. Je suis désolé, je veux respecter le départ de Robert et comme il devra partir en catimini, si on a 5 minutes pour discuter encore, moi je suis disponible.
Bonjour ou bonsoir, parce que j'espère que vous avez encore un petit peu de disponibilité et d'attention. Alors, je vais être assez bref, peut-être que 10 minutes seront même un peu longues par rapport à ce qui me semble intéressant de vous renvoyer après cet après-midi de travail. Donc j'articulerai le retour autour de trois entrées. Une première entrée sur le terme résidence, une deuxième entrée sur le thème éducation et art, et une troisième entrée sur le sensible et l'intelligence, pour faire vite. Sur la première entrée, sur le terme de la résidence, des personnes qui sont en résidence, c'est des personnes qui vivent dans un même lieu et qui peuvent avoir des projets de vie qui sont les mêmes ou qui peuvent avoir des projets de vie qui ne sont pas les mêmes. Et je crois que c'est une question qui est à se poser quand on parle de résidence d'un artiste dans une école, c'est-à-dire qui vient en résidence et qui pilote la résidence, parce qu'il y a les artistes, les ATSEM, les enseignants et les élèves. Et quelle est la place et le rôle de chacun dans cette résidence? Ils ont chacun leur projet personnel, leur projet professionnel, et il y a un projet de vie de la résidence. Et tout ça, c'est pas simple. Et ça doit se côtoyer. Voilà, donc, c'est une première question autour de la résidence, et que l'atelier de l'artiste n'est qu'un élément de la résidence. Un artiste en résidence, pour moi, c'est pas un artiste fait des ateliers dans une école. C'est complètement différent, être en résidence. L'atelier, c'est peut-être un point. Et c'est comme un iceberg, si c'est ce qui se voit, le plus important peut-être est ailleurs. Voilà. Par rapport à la résidence, je voudrais revenir aussi sur le terme de projet de vie, parce que les professionnels ont des projets professionnels, et les élèves ont des projets aussi qui sont des projets d'élèves, même quand on est à 2 ans ou à 3 ans à l'école, on a des représentations de l'école, on a des attentes par rapport à l'école et on a des émotions par rapport à l'école. Donc ce sont des éléments qui sont ici. D'où pour moi le questionnement autour de comment faire pour que cette résidence puisse correspondre au projet de chacun. Il me semble que ça passe par le fait de se connaître. Alors, je reprends un petit peu des choses qui ont été dites, hein, puisque c'était le rôle, donc j'espère que vous pourrez faire des liens ou ouvrir d'autres portes. L'importance de se connaître, l'importance de faire état de ses représentations de l'autre. Qu'est-ce que c'est que pour moi un artiste? Qu'est-ce que c'est que pour moi une ATSEM? Qu'est-ce que c'est que pour moi un enseignant et un élève? Cette étape-là, elle me semble essentielle si on veut travailler ensemble. Parce qu'on ne peut pas faire comme si c'était pas là. Et connaître l'autre, c'est aussi le connaître dans sa profession. Donc prendre le temps d'aller voir l'artiste en spectacle, prendre le temps pour l'ATSEM ou pour l'enseignant d'aller voir l'artiste quand il travaille en tant qu'artiste, et prendre le temps pour l'artiste d'aller voir l'enseignant dans sa classe, de passer du temps et du temps à le regarder faire la classe pour le comprendre. Et après, on pourra travailler ensemble. Après, on aura des éléments communs sur lesquels on pourra s'appuyer pour construire. C'est un petit peu ce questionnement-là, moi, qui me vient quand j'entends les présentations de résidence, quand on parle de résidence d'artiste ou de, je voulais pas dire le terme, mais je le dis, de partenariat. Donc cette importance du vivre ensemble et vivre ensemble une pratique artistique, puisque là on parle de résidence d'artiste, vivre ensemble la pratique artistique, ça veut dire se coltiner ensemble à la pratique de l'artiste, que je sois ATSEM, que je sois enseignant, que je sois élève, et vice-versa. Ça, c'est des questions qui, pour moi, me paraissent essentielles à se poser, à vous entendre, parce que vous avez parlé de posture de l'adulte, hein. Vous avez parlé de la guidance, vous avez parlé de quand la technique arrive-t-elle, et toutes ces questions, il me semble qu'elles vont trouver des éléments pour avancer, je ne dis pas des réponses, mais en tout cas des éléments pour avancer, si on met en place une démarche qui permet d'avoir le travail que je viens d'évoquer pour aller vers l'élaboration du projet, où le rôle et la fonction de chacun sont bien définis. On n'est pas dans le flou, hein. J'ai beaucoup travaillé avec Denis Plassard. D'abord, il y a un très bon DVD sur Regardez comme il danse, qui a été fait en danse. Et lui, tout est écrit. Rien n'est laissé au hasard. Tout est vraiment écrit au millimètre près. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on pourra parler d'éducation artistique. Et ça, je crois que c'est vraiment très important de savoir qui fait quoi, comment on va s'y retrouver. Dans ce que vous, quand vous parliez de la guidance tout à l'heure, après, on va pouvoir avoir du flou. À partir du moment où la guidance aura été partagée et qu'on sait bien le rôle de chacun. La régulation me paraît aussi un terme important parce que nous sommes humains et qu'on a besoin de partager à certains moments des retours sur ce qu'on a vécu. Comment on a vécu le moment où l'artiste a travaillé, ce qui se passait tout à l'heure à la table quand il y avait l'artiste Latsem et l'enseignante, et les dires qui étaient là, pour moi c'était très intéressant parce que c'était vraiment, ça jouait aussi un temps de régulation qui est nécessaire pour qu'on puisse continuer à travailler ensemble. Pour aller jusqu'au bilan et pour aller jusqu'à l'évaluation, parce qu'on est à l'école, c'est pour ça que j'ai parlé d'élèves, et qu'il y a peut-être un bilan à faire par rapport au projet et qu'il y a une évaluation par rapport à faire par rapport aux compétences qui sont à travailler, et que les deux, de mon point de vue, ne sont pas incompatibles. Voilà, par rapport au terme résidence, ce qui m'est venu cet après-midi, la deuxième entrée, c'est éducation, art. Alors, dans le discours de Mme Lefel sur l'éducation artistique, hein, je pense qu'elle est intervenue, et nous, on l'avait eu aussi. Et ce que je trouve intéressant et ce que je souhaitais reprendre avec vous, si je le retrouve, voilà, oui, que les arts et la culture appartiennent au bien d'une nation, ceci participe des valeurs de la République, garder une mémoire de ses expériences. Je fais le lien avec ces propos parce que dans ce que j'ai entendu cet après-midi, pour moi, à certains moments, j'ai eu des liens avec ça. Et ça me semblait intéressant de le resituer là, pour pouvoir, sous les termes éducation et art, avoir deux sous-entrées, si je puis le dire comme ça. Et elles ont été évoquées, éducation à l'art et éducation par l'art. Hein, ce sont des termes qu'on retrouve dans les derniers textes qui seront bientôt officiels, me semble-t-il. Donc, éducation à l'art en termes d'acquisition d'une culture artistique. L'univers de l'artiste, c'est quelque chose qui a été évoqué aussi cet après-midi. Hein. Annick Charlot, elle dit « je les emmène dans mon univers, que ce soit des adultes ou que ce soit des enfants, pas de la même façon, mais je les embarque dans mon univers qui est le mien ». Confrontation à l'expérience esthétique et l'importance du faire, de l'expérimenter, de l'interpréter. Ça, c'est le geste artistique qui est de ce côté-là. En parallèle avec l'éducation par l'art, qu'on retrouve fortement, et j'étais hier matin dans une école avec un artiste qui est en résidence, justement, et où on voit bien que dans la logique de l'éducation par l'art, ce qui est conduit par l'artiste, si on est vraiment dans une résidence, on a un travail sur la construction de la pensée, on a un travail de conceptualisation, on a un travail qui va servir sur la concentration de l'élève, sa posture d'élève dans les relations avec les autres, dans les relations avec l'adulte, dans les relations avec ses pairs, PAIRS, et le développement du sensible, de la créativité, de la faculté de juger également. D'où pour moi se pose la question de la démarche qui est mise en place. Et ce qui m'interroge également, et ce que je vous livre comme ça, c'est parce que ça a aussi été évoqué cet après-midi en termes de la démarche de création, la démarche scientifique, la démarche d'apprentissage, on parle de ces différentes démarches à l'école. Est-ce que ce ne sont pas des habillages différents d'une même structure qui serait derrière? Je fais référence à Mérieux sur les indicateurs de surface et les indicateurs de structure, hein, entre l'habillage et la structure. Et quand on parle, qu'est-ce qui va être spécifique de la démarche de création par rapport à une démarche d'apprentissage dans un autre domaine ou par rapport à la démarche scientifique? Voilà, pour l'éducation et art, et très rapidement sur le dernier terme qui était sur le sensible qui a été évoqué et sur l'intelligence, pas d'opposition entre le sensible et l'intelligence. Pour moi, ça fait référence à deux choses. D'une part, la prise en compte de plus en plus à l'école des intelligences multiples, et le sensible est une intelligence. Hein, et on voit se développer des approches, alors pour certaines qui nous viennent du Québec, sur les intelligences multiples, et comment on va prendre en compte le fait que les élèves ont des intelligences multiples et que l'école n'en favorise pas une par rapport à d'autres. Et la deuxième entrée, c'est le sensible, les habiletés socio-émotionnelles, la prise en compte des émotions. J'ai eu la chance de participer en Belgique il y a quelques années à un dispositif qui s'appelait Axenros, qui est un dispositif qui a été développé dans les écoles flamandes de Belgique sur un travail sur les habiletés socio-émotionnelles. Et en France, on commence, on va le voir dans les nouveaux programmes, à voir comment on laisse la place aux émotions à l'école parce que dans l'apprentissage, les émotions ont leur rôle. que ce soit dans l'artistique, mais que ce soit dans les autres domaines aussi. Et le sensible, il a toute sa place, et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on commence maintenant à lui donner sa place pour que la personne en tant que telle soit considérée. C'est un petit peu ce que j'ai entendu dans les questionnements sur le sensible. Voilà, alors je vous ai livré deux, trois choses comme ça, c'est le fruit de ma réflexion, ma modeste réflexion de cet après-midi à vous entendre et à être là, à travailler avec vous, sachant que sur l'évaluation, j'ai rien retenu parce que pour moi, ça reste encore une énigme, comment évaluer, le rôle et la place de l'évaluation, et je resterai très modeste et je sais, j'ai pas de... Ça me questionne beaucoup et je ne suis pas suffisamment allé réfléchir cette question-là, même si dans les fonctions que j'exerce, je suis confronté très régulièrement à la question de l'évaluation. Je la prends avec beaucoup, beaucoup de réflexion et de prudence. Voilà, merci pour votre écoute.
Moi, j'aurais une question par rapport au film, parce que, en tout cas, à Genève, on nous a beaucoup demandé de se faire filmer en classe pour faire des études de la recherche. Et quand je vois les commentaires qu'il y a eu, en fait, un film, il est intéressant essentiellement pour ceux qui ont été impliqués dans le film, ou bien quel est votre point de vue à ce sujet? Quelle est la bonne manière d'utiliser, en fait, la trace filmée d'une expérience?
Alors vous avez raison, et c'est peut-être une erreur de faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire de décontextualiser le filmage. Alors déjà, quand je suis avec les gens, ils trouvent que c'est décontextualisé parce qu'il manque des tas de choses. L'histoire de « on est frustré parce que vous n'êtes pas allé filmer au fond », ben il faudrait être plusieurs, parce que le principe des activités artistiques, notamment en maternelle, c'est que ça bouge sans arrêt. Et que moi, quand j'entends les gens qui me donnent des conseils en sciences d'éducation pour dire, pour filmer en sciences d'éducation, c'est caméra sur pied, et donc tu cloisonnes l'espace, c'est-à-dire tu mets deux caméras là, une caméra là, comme ça, t'as ça et ça en même temps, et puis après tu mets tes deux images côte à côte pour reconstituer l'espace, ça c'est très valable pour une situation de classe traditionnelle, frontale, transmissive, ok. Donc, par exemple, l'autoscopie qu'on propose à certains étudiants en formation part de ce principe-là, comment tu fais la classe, comment tu vas conduire le groupe. On met trois caméras et après, tu travailles ou on travaille avec toi sur cette autoscopie-là. Ça peut pas marcher, là. Donc, moi, à un moment donné, l'artiste qui est là m'avait dit tu filmes un peu à la manière d'une... Tu fais de la guérilla. Alors, je l'ai mal pris au début, je me suis dit... moi, pas guerrier. Et en fait, elle voulait dire, tu travailles un peu comme font certains photographes ou vidéastes, alors pour le coup, à traquer comme ça, à suivre ce qui se passe. Alors moi, j'ai rien fait de, j'ai aucune prétention artistique ou même de vidéaste. Pourquoi? Je fais de la vidéo grise, comme disent certains collègues chercheurs, anthropologues. Et moi, c'est plutôt l'anthropologie qui fait que quand le terrain se meut, je suis. Donc voilà, non, il faudrait être plusieurs. Alors il y a un rêve panoptique dans toute démarche de recherche. Là, finalement, moi j'ai ce que j'ai et puis je travaille avec ce que j'ai. Alors, et puis point, on va pas avoir un souci d'exhaustivité par l'image pour avoir le reflet de la réalité d'exactement ce qui s'est passé. Du coup, je vais revenir à votre question. La vidéo devient un prétexte. Alors pour le chercheur, c'est un prétexte en deux mots. Ça sert à élaborer des textes aussi. Un prétexte pour faire parler sur quelque chose qui fait enjeu. Et en fait, la proposition qui a été faite cet après-midi et qui vient aussi surtout de Marie-Odile, c'était de dire comment on peut, à partir de situations alors, qui sont pas réelles, fidèles, qui vous concernent pas, mais qui ont eu lieu, donc il y a quand même malgré tout une trace de quelque chose qui s'est passé comme ça, même si on n'a pas toute la réalité et qu'on va pas chercher à reproduire le réel parce que il suffit de s'intéresser à lui pour qu'il soit déjà parti. C'est ça le principe du réel. Il est dans l'instant et on construit, donc on est déjà au-delà de l'instant. On a perdu le réel. Donc la réalité, c'est on capte quelque chose du réel, on en discute et on voit quels enjeux ressortent. Et en fait, moi, quand je propose ces jeux-là, et c'est pas la première fois que je le fais, je le fais quand même à petite dose, à chaque fois, il y a cette idée de qu'est-ce qu'on va pouvoir créer comme débat et qu'est-ce qu'on va faire ressortir comme enjeu éducatif sur la place de l'artistique et ce que chacun des groupes a fait ressortir. Si on l'avait enregistré, qu'on faisait un verbatim derrière et on ferait le bilan de tout ça, il y aura à peu près 10 ou 15 enjeux de l'école d'aujourd'hui, de la place des arts à l'école, de l'école maternelle, de la place de l'adulte vis-à-vis de l'enfant, etc. Et de l'éducation, finalement. Donc, ce que je vois dans l'intérêt de ça, c'est que, effectivement, pour les acteurs eux-mêmes, il y a en plus de ça un souci qu'ils ont, une utilité qu'ils voient pour la réflexivité, qui est pas donnée, qu'ils ont peu l'occasion de le faire. Christine a dit au début que les séminaires, les rencontres comme ça, avec des expériences ailleurs, en Belgique, c'est des occasions où on se dirait presque que c'est des cadeaux, quoi. C'est des trucs qui arrivent, mais quasiment jamais, alors que ça devrait, enfin, pour moi, ça devrait être la norme. C'est-à-dire que la formation continue avec des échanges comme ça où on laisse du temps de séminaire aux gens pour travailler sur leurs expériences et d'expérimenter des choses ensemble. Il fut un temps où, alors je dis ça comme si c'était qu'il n'y en aura plus après, mais il y en aura sans doute, où il y avait des séminaires EAL qui duraient 3 semaines et où on avait l'occasion de faire des ateliers recherche, des ateliers de pratique artistique qui étaient plébiscités par tout le monde parce que ce que disait Robert Girard tout à l'heure, se déplacer pour voir le travail de l'artiste, mais faire avec lui dans un espace de formation et ressentir à travers les sens ce que les enfants peuvent ressentir avec l'artiste et de se lancer dans des choses, alors sans souci du regard de l'autre, à travers les gestes qu'on fait, les maladresses qu'on a. Et moi, j'ai vu des moments qui sont exceptionnels en formation. Mais qui devrait, enfin, on devrait se dire, politiquement, c'est vers là qu'il faut aller. Mais on sait que politiquement, si on rend les gens trop intelligents, ça peut être dangereux. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait que après, il y a toutes les questions de budget aussi, mais.
Alors moi, je voulais compléter ce que tu disais, justement, parce que, dans le travail de formation qu'on mène au Centre La Savary, on utilise beaucoup la vidéoformation. Et justement, cette situation-là, tu l'as bien expliqué, souvent, nous, on donne une séquence de vidéos où comment, en tant qu'accompagnant informateur, comment on regarde la situation, on la décrit, et puis on se rend compte, a posteriori, quand on donne la contextualisation, que l'enseignante ou l'artiste a de bonnes raisons de faire ce qu'elle fait.
Absolument.
Elle n'a pas forcément raison tout le temps, mais en tout cas, elle a de bonnes raisons de le faire. Et l'illustration de cette proximité corporelle, physique, avec l'enfant, il y a tout ce que, dans l'a priori de l'image, on projetait nous-mêmes sur à l'école maternelle, il faut se détacher, il faut que l'enseignante ne soit pas dans un rapport trop maternel, c'est pas son rôle, etc. N'empêche que là, cette enseignante, pour elle, ça avait du sens. Et puis, l'évaluation par la suite, quoi, le retour de la parole de l'enfant, finalement, avait été porteur à ce niveau-là. Et je crois que ces déconstructions, reconstructions, contextualisations, et puis après, c'est ça qui nous fait progresser, nous, dans notre rôle de formateur aussi, de, comme je l'ai déjà dit, hein, c'est une phrase de Françoise Lantôme, c'est « mieux vaut soutenir l'existant que prescrire l'idéal ». Hein, donc ça, c'est des choses qu'on développe beaucoup au Centre La Savary. Bon, ici, d'où ma commande avec Jean-Paul, et puis demain avec Corinne qui interviendra, mais aussi dans d'autres thématiques de formation, quand on est en charge de formation d'enseignants ou d'accompagnement en fonction de notre posture ou de nos fonctions sur le terrain.
Et sur la posture corporelle, juste une chose sur l'enseignante en question, je termine par un cadrage. Alors là, il y a des choix de filmage, effectivement, à un moment donné, j'essaie de me positionner pour voir à la fois l'adulte et l'enfant qu'elle accompagne, puis l'autre qui est tout seul en train de jouer avec ses pieds, là. Et là, je me dis, il faut que je reste, parce qu'il se passe deux choses en même temps, très proches, très différentes. Et là, l'enseignante termine à genoux. Et les enseignants qui arrivent à jouer ce jeu de se baisser au sol, c'est très très rare. Les artistes n'ont aucun souci. Je les ai vus travailler, moi, dans des postures pas possibles, à plat ventre. Ils n'ont aucun souci à être près du sol, en bas des enfants. Les enseignants ont toujours une tendance à garder la position corporelle supérieure à l'enfant. dans l'apprentissage. Et là, cette enseignante-là, donc avec tout ce qu'elle a de rigide, entre, on faut le mettre entre guillemets, du coup, qu'on a vu, elle joue malgré tout le jeu de se posturer, on pourrait dire, de telle sorte qu'elle soit toujours dans ce que l'enfant est en train de construire ou ce qu'elle aimerait lui faire construire. Effectivement, après, il y a une espèce d'induction très très forte de l'enseignante qu'on peut critiquer, mais au moins, il y a des nouveautés dans sa manière de faire. Effectivement, les bonnes raisons, je trouve que c'est très important de le préciser.
Et là, donc, finalement, tu nous as déjà dégagé une piste de construction de formation de, par rapport à la posture d'un enseignant dans une école maternelle où on pourrait, on en reparlera peut-être un peu demain, mais on pourrait imaginer une ingénierie de formation où on va réfléchir, travailler sur cette histoire de posture qui, de ton point de vue, est problématique, peut-être d'autres ne l'est pas, quoi. Ça fait des enjeux et des controverses qui sont nos problématiques de métier en tant que formateur ou accompagnateur d'enseignants.